le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Il y a comme un air de printemps, c'est aussi la période où les rennes frelons sortent de leur léthargie hivernale. Dans un instant, on vous dit ce à quoi il faut être attentif pour repérer les nids en construction. Mais d'abord, d'un nid de guêpe à l'autre, on va revenir en détail sur la crise qui a agité le parti Défi. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
C'est un communiqué de presse qui a mis le feu aux poudres. Olivier Minguin, figure historique du parti Défi, convoquait les médias pour dénoncer les tricheries dans le processus de confection des listes électorales. Les poids lourds du parti ont lavé leur linge sale en public pendant plusieurs jours. Dimanche dernier, après de nombreuses réunions de la dernière chance, le parti a tenu son premier congrès préélectoral. Que s'est-il passé entre les deux? Qu'est-ce qui a suscité la colère d'Olivier Minguin? Où en est aujourd'hui le parti Amarante? On va voir ça avec Julien Thomas qui couvre l'actualité bruxelloise.
Bonjour Julien.
Bonjour Pierre.
Pour bien comprendre toute cette histoire, il faut revenir un peu en arrière, au commencement presque. Défi, ça a longtemps été le parti d'Olivier Minguin. En 2019, Olivier Minguin lui-même introduit François de Smet, l'ancien directeur de Myria, et François de Smet est élu président. À ce moment-là, c'est l'entente cordiale entre les deux hommes?
Oui, c'est une bonne ambiance. Donc, il faut rappeler un peu le contexte. À la base, Défi, c'est un petit parti. Et donc, ils ont peu de ressources humaines et de prétendants pour succéder à Olivier Minguin. Donc, c'était finalement assez logique qu'il aille chercher quelqu'un dans la société civile. Après, à la base, il a été le chercher pour lui succéder comme député fédéral. Il y a peut-être plus ou moins une sorte de deal, mais en tout cas, effectivement, six mois plus tard, il était président.
Il était président. Comment ça se passe à partir du moment où François de Smet devient président, avec Olivier Minguin toujours présent dans le parti? Là, il y a un peu des tensions qui commencent à apparaître.
Oui, pas tout de suite, mais effectivement, au fil du temps, il y a quand même des petits trucs qui montrent que effectivement Olivier Minguin a finalement quand même du mal à lâcher tout à fait les rênes du parti. C'est en soi encore normal qu'il ait son mot à dire, mais voilà, parfois il cherche à imposer ses vues et on a quand même l'impression parfois que son successeur n'a pas tout à fait les coups des franges.
Il y a quelques semaines, le parti Amarante se met en ordre de marche pour les élections, comme les autres formations politiques. On prépare les listes électorales et notamment la liste régionale bruxelloise. Le 18 février dernier, cette liste est soumise au vote des militants et elle est approuvée dans la douleur, on peut dire ça comme ça?
Oui, dans la douleur, apparemment, il y a des gens soit qui pleuraient, soit qui criaient, enfin on a parfois les versions qui divergent, mais en tout cas, c'était très compliqué. Prenons un peu de la distance, effectivement, la ligne de défense de Défi ces dernières semaines a toujours été de dire « nous, on a un parti démocratique par rapport aux autres ». Ce qui est sûr, effectivement, c'est que les militants, une partie des militants, ont leur mot à dire, plus qu'ailleurs, à part chez Écolo éventuellement. Mais donc voilà, au PS et MR, on ne chipote pas. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de discussion. Ici, effectivement, une liste doit être approuvée par les délégués, ils sont une grosse centaine. Et en plus, ce qui rend les choses plus compliquées, c'est que c'est à 60% des gens présents, ce qui n'est pas rien sur 150 personnes. Donc il faut se mettre d'accord et parfois il faut faire plusieurs listes. Voilà. C'est le 18 février, n'était pas la première liste, mais au moins la seconde qui était proposée. Pour revenir sur le 18 février, effectivement, c'était je crois que c'est un dimanche, c'est une journée assez cauchemardesque pour le parti. C'est très compliqué, c'est très dur, tout le monde est fatigué, tout le monde est sous les nerfs. Mais ça se fait dans des conditions qui sont exécrables et tendues. On apprend plus tard en fait que le président de la commission électorale, Didier Gozon, était là sans être président. Cette commission électorale n'était pas au complet. Ils ont compté, ils ont peut-être pas assez recompté parce qu'ils en avaient marre. On sait pas trop. Toujours est-il qu'il n'y a pas de PV qui est fait, en tout cas ce soir-là, ce qui est déjà pas très sérieux.
On le découvre le 20 février, au moment où Olivier Minguin lui-même convoque la presse. D'abord, vous qui couvrez l'actualité bruxelloise au quotidien, qu'est-ce que vous vous dites quand vous recevez ce communiqué d'Olivier Minguin? Vous vous dites il va annoncer quelque chose? Vous vous doutez de ce qui peut se passer?
C'est une très bonne question, parce qu'effectivement ça allait assez hallucinant et tout à fait inédit d'avoir ce genre d'accusation dans la presse. Donc effectivement, je reçois le communiqué de presse et il est question effectivement de dénoncer des tricheries par rapport à dimanche. Et donc très rapidement, je connaissais pas encore la virulence des propos d'Olivier Minguin, mais je me rends compte que il y a un sujet. Si vous voulez, comme journaliste, parfois on a une conférence de presse, on n'est pas sûr. Là, on se rend compte qu'il y a quelque chose à raconter, mais on ne sait pas l'ampleur. Donc on va sur place et effectivement, on a une tirade très violente qui accuse de tricherie à la fois le chef de cabinet, mais soyons clairs, Olivier Minguin a un peu lissé après son discours, mais moi je l'ai interrogé trois fois ce jour-là pour lui demander, mais finalement c'était aussi François de Smet qu'il visait et qu'il accusait de tricherie, et il m'a répondu oui. Donc aujourd'hui, après, dans cette séquence, on l'oublie, d'ailleurs je le mets moins aussi, mais à la base, ce jour-là, il accuse aussi François de Smet de tricherie directement, son successeur, et sans preuve finalement. Alors il y a un déroulé, il faut avouer qu'Olivier Linguin est très éloquent, il est persuasif, il est convaincant sur le moment même, il nous donne des numéros de téléphone à appeler de gens, on se dit que voilà, que des têtes vont tomber, et finalement on se rend compte que c'est quand même plus compliqué que ça.
Très concrètement, Olivier Minguin, il dit quoi à ce moment-là pour que les auditeurs comprennent bien? Il dit il y a eu un problème parce que le chef de cabinet de François de Smet a repris les bulletins chez lui, les a recomptés, il n'aurait pas dû, et pour au final en fait se rendre compte qu'on n'atteint pas le quorum dont on parlait tout à l'heure de 60% et qu'il faudra un nouveau vote. C'est ça qu'il dénonce, Olivier Minguin.
Il met d'abord le doigt sur des trucs un peu inhabituel et un peu troublant, c'est effectivement le fait d'abord qu'il n'y ait pas de comptage de PV le dimanche, ni de communication du parti. Faut savoir qu'en décembre, quand ils ont décidé, ils sont mis d'accord sur les trois premiers noms de la liste, Claire Failly, Joël Maison et Fabien Minguin, il y a un communiqué de presse le soir même, à minuit, minuit et demi. Ici, on est mardi, deux jours plus tard, et toujours pas de communiqué de presse. Donc oui, c'est bizarre. Il explique qu'il y a eu un bureau le lundi où François de Smet se serait employé à convaincre les membres présents de revoter, d'invalider le vote. Voilà, et il nous dit aussi que le secrétaire général du parti trouve aussi qu'il y a un souci. Donc on sort à la conférence de presse en se disant qu'on va passer des coups de fil et que ça va être facile en fait. Puis surtout, le jour même, on a une contre-conférence de presse à 15h, donc c'est un peu un film, une saga, et là on a François de Smet qui dit que non, il ne démissionnera pas son chef de cabinet, ce qui était une exigence, il se renvoie à chacun la balle. Et les jours suivants, le ton se durcit et devient même, voilà, Olivier Minguin était très menaçant, donc tout le monde a pensé qu'à la fin, il allait peut-être quitter le parti. Finalement, on n'a plus l'impression.
Donc une dispute en public qui fait mauvais genre, évidemment, et puis c'est pas encore fini. En fin de semaine dernière, le parti convoque un conseil régional là pour valider cette fameuse liste, la liste à laquelle on avait dit non au départ.
C'est un feuilleton qui finalement est assez pathétique, puisqu'il y a eu un deuxième conseil général une dizaine de jours plus tard. Ils se mettent d'accord sur un troisième conseil général en un mois, celui de vendredi passé. Et là, bon, on est quand même à deux mois et demi des élections. Donc,
il commence à être temps de se préparer.
Oui, parce que bon, quand il y a quelqu'un de défi qui prend la parole dans un studio de radio, à la télé ou n'importe quoi, tout le monde un peu s'en fout de ce qu'ils disent et surtout ont envie de savoir ce qui se passe dans le parti. Donc ça abîme totalement leur campagne électorale. L'image est désastreuse aussi auprès des militants. Enfin, c'est une querelle en partie d'ego. En tout cas, finalement, on n'a pas le fin mot, en fait. C'est quand même important de le dire. Entre guillemets, c'est la ligne François de Smet qui a gagné, celle de la présomption d'innocence. Mais il est vrai qu'il y a eu entre les chiffres de dimanche, ceux communiqués par François de Smet le mardi et éventuellement même ceux dans un courrier que François de Smet aura envoyé à ses militants, on a peut-être chaque fois des chiffres un peu différents. Donc finalement, bon, je crois que ce qui a fait pencher la balance dans cette histoire, c'est que Didier Gozouin, qu'on pensait encore à l'époque président de la commission électorale, a dit que oui, il s'était peut-être trompé. C'est-à-dire que si ce mardi-là, il avait dit « il y a tricherie, le vote de dimanche est bon », voilà, c'est intéressant, sa voix a pesé énormément, je pense. Donc je crois qu'il a au moins pensé à l'intérêt du parti. Je sais pas, après, finalement, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire.
Vous venez d'évoquer la personnalité de Didier Gozouin. On a appris il y a quelques jours qu'il ne se présenterait pas sur aucune liste. C'est un désaveu pour François de Smet, pour Olivier Minguin, pour le parti en tant que tel.
C'est le signe d'un parti qui va pas bien. Pendant longtemps, on a un parti qui est tenu sur un trépied, finalement. Olivier Minguin, Didier Gozouin, Patrick Clafailly. Au congrès électoral de dimanche, il n'y avait que Bernard Clafailly. Les deux autres étaient absents, un signe de protestation. Donc c'est un peu tristounet pour ce parti. Il faut quand même préciser que Didier Gozouin n'était pas candidat en 2019. La dernière fois, c'était en 2014. Mais il avait proposé il y a quelques jours d'y être, moyennant atteindre un compromis qui finalement a été refusé. Olivier Minguin aurait pu aussi apporter des voix ou un pourcentage. Enfin, des filles, on verra bien dans les prochains jours aussi au niveau des intentions de vote, mais c'est pas un parti qui... Enfin, c'est un parti qui peut un peu s'inquiéter. Enfin, on verra bien, mais c'est jamais facile pour eux au niveau des intentions de vote.
Oui, je voulais justement terminer là-dessus. Dans les derniers sondages, Défi était crédité d'un score pas énorme, mais honorable. C'est un mauvais coup de projecteur qui pourrait leur faire du tort, là, quand même, toute cette séquence.
Oui, on verra bien. On peut toujours être surpris, maintenant et puis en juin. De toute façon, c'est que du négatif. Et le parti qui est divisé pour les élections, on a Olivier Minguin qui se replie sur ses terres définitivement et qui va faire campagne au communal, mais qui va pas apporter sa visibilité, comme Didier Gozouin pourrait le faire aussi, mouiller le maillot. C'est quand même un parti pour lequel, que ce soit Didier Gozouin ou Olivier Minguin, ils ont donné des dizaines d'années de leur vie. C'est dommage. Enfin, pour eux en tout cas.
Merci beaucoup Julien.
Merci, au revoir.
Avec l'arrivée du printemps, les frelons asiatiques sortent d'hibernation. Cette espèce invasive, présente en Belgique depuis 2016, débute sa période de nidification, un moment clé pour enrayer sa progression dans notre pays. Alors comment identifier les nids? Que faire quand vous en trouvez un? Quelles menaces représentent les frelons asiatiques pour la biodiversité belge? On vous explique tout ça avec Frédéric Delepierre du Pôle Planète.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Julien.
Le printemps correspond au réveil des reines fondatrices chez le frelon asiatique. Pourquoi et à quoi faut-il être vigilant pendant cette période?
Ce réveil correspond à un sursaut d'activité. Donc les reines fondatrices sont restées en hibernation, durant tout l'hiver. Elles se réveillent lorsque la météo propose une succession de jours où la température de 14 degrés centigrades est atteinte. Ça va être le cas, c'est le cas ici actuellement d'ailleurs. Ce qui fait que les reines vont construire des tout petits nids et vont commencer à être actives et à y pondre des œufs. Et ces petits nids, elles les installent dans des endroits très calmes. Généralement, ce sont des chalets de jardin, ce sont des nichoirs, ce sont des façades, c'est près des gouttières, des maisons, c'est sous les châssis des fenêtres. Donc, il faut vraiment, c'est ce qui est conseillé par les apiculteurs, faire des petits tours de garde comme ça tous les 10 jours, aller scruter un peu ces endroits qui sont stratégiques afin de pouvoir détruire ces nids le plus rapidement possible, parce que de ces nids risque de se produire une invasion qui sera bien plus compliquée à maîtriser par la suite.
Comment identifier les nids et que faire après en avoir découvert un?
Ces nids, dans un premier temps, ils sont vraiment très très petits, donc les fondatrices les confectionnent tout simplement avec du bois qu'elles vont mâcher et qu'elles vont sculpter. Et lorsqu'on a en main ces nids, ils sont très très fins, c'est comme du papier. C'est très petit, ils peuvent être maîtrisés tout simplement. Donc ils sont très fins et il y a un trou qui est généralement sous le nid. Et c'est par là que entrent et sortent les fondatrices. Et le détruire est assez simple d'après les apiculteurs. Il faut prendre un petit bocal, le mettre sous le nid, et glisser un racloir ou une spatule et faire tomber le nid dans le bocal que l'on referme tout de suite. Ensuite, les reines fondatrices, si elles se trouvent dans le nid, vont tout simplement être asphyxiées. On conseille même parfois de mettre ces bocaux au congélateur histoire d'endormir tout simplement définitivement les reines fondatrices.
Le frelon asiatique est présent depuis 2016 en Belgique. Comment sa population a évolué depuis?
Mais effectivement, on a constaté la présence du frelon asiatique pour la première fois en 2016 à Tournai. Et l'an dernier, la région wallonne avait évalué à 5000 nids la présence du frelon asiatique en Wallonie. Et elle estime que cette année, on pourrait atteindre une espèce de seuil qui serait de 9000 nids en Wallonie. Pour Bruxelles, on n'a pas vraiment de chiffres. J'ai rencontré un apiculteur qui est très actif, qui a créé une association qui s'appelle F Bruxelles. Et rien que sur la commune de Woluwe-Saint-Pierre, l'année dernière, en 2023, il a découvert 90 nids. Donc on peut extrapoler, bon ça n'est pas scientifique, mais 90 nids fois 19 communes, on imagine ce que ça représente. Donc c'est multiplié par 3 tous les ans, mais les experts disent que cette année ou l'année prochaine, cette augmentation pourrait quand même se ralentir considérablement.
On parlait de la Wallonie, on parlait de Bruxelles. Est-ce que la Flandre aussi est touchée par l'invasion?
Oui, bien sûr, c'est un problème qui touche toutes les régions, avec quand même un gros focus sur l'urbanisation. Le frelon asiatique, ça peut paraître étonnant, mais va beaucoup plus se propager dans les villes et dans les grandes villes que dans les campagnes.
Le frelon asiatique est une espèce invasive et il jouit d'une mauvaise réputation. Faut-il réellement le craindre? Quelle menace représente-t-il pour la biodiversité belge?
Oui, c'est un insecte. Des scientifiques disent que un nid de frelon asiatique peut avaler jusqu'à 11,3 kg d'insectes par an. Donc on imagine ce que ça représentait à l'échelle d'un pays. Ces insectes, les scientifiques ont estimé qu'ils sont de 155 variétés différentes, avec bien entendu en priorité les abeilles. Le problème que ça représente pour la biodiversité, c'est que les abeilles sont des pollinisateurs, donc si on détruit les abeilles, on détruit tout simplement la biodiversité dans sa globalité. Donc oui, ça représente un danger considérable, d'autant que tous ces insectes qui sont ingérés par le frelon asiatique représentent normalement le garde-manger des oiseaux. Donc les oiseaux vont se retrouver avec moins d'entomophones à manger. Donc les oiseaux eux-mêmes vont être mis en danger. Enfin, c'est une chaîne sans fin. Donc oui, c'est le danger principal, c'est celui qui est fait à la biodiversité. Deuxième danger, c'est la santé publique. Jusqu'à présent, on disait que le frelon asiatique ne représentait pas vraiment de danger pour l'humain. C'est pas forcément le cas, parce que frelon asiatique, en Asie, ils installent ses nids en hauteur pour essayer d'éviter la concurrence avec les autres espèces de frelons auxquelles il est confronté, qui peuvent être ses prédateurs. Ces prédateurs, chez nous, ils n'existent pas. Ce qui fait qu'on a constaté que 30% des nids des frelons asiatiques sont finalement maintenant installés entre 0 et 10 mètres. Ce qui fait que ça peut se retrouver dans des haies, ça peut se retrouver dans des jardins un peu partout. Et si le frelon est dérangé par l'être humain ou pour une autre activité, il peut s'énerver et de là s'en prendre à l'être humain, s'en prendre aux enfants dans les jardins. Et sa piqûre peut être mortelle. On n'a pas encore constaté de décès en Belgique. Mais l'an dernier, en France, il y a quand même 17 personnes qui sont décédées suite à des piqûres de frelons asiatiques.
Est-ce que la fin de l'invasion des frelons asiatiques est proche en Belgique ?
La fin de l'invasion n'est pas proche, on ne peut pas dire ça, mais les experts de la région wallonne estiment que cette invasion va commencer à se ralentir. Donc jusqu'à présent, elle faisait x3 tous les ans, et là on va arriver à un palier avec les 9000 nids qui sont supposés être répertoriés en 2024 en Wallonie. Ça pourrait être un seuil, donc ça pourrait continuer à croître, mais de manière beaucoup moins exponentielle que c'était le cas jusqu'à présent, oui.
Merci Frédéric.
De rien, Julien, avec plaisir.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.